16h, 17h, chacun son tour, avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans chacun son tour. C'est la fin de la semaine, et c'est la fin de la première semaine de Ramadan aussi d'ailleurs. Demain, on vous retrouvera avec le tour du monde. Il faudra attendre lundi pour retrouver chacun son tour et pour retrouver le chef Enzem. Bonjour Nabil.
Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous.
Bon, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'ai l'impression que c'est comme les autres années, ça passe trop vite. Ça passe très vite. C'est un mois qu'on attend tous et qui est de plus en plus facile, disons-le nous. Mais ça passe vite. On est déjà une semaine. J'avais l'impression que c'était hier, que je venais d'arriver dans le studio, quoi.
Bah ça passe vite parce qu'on ne se lasse pas avec tes bonnes recettes chaque jour.
Ouais.
Bon, c'est vrai que là on s'est régalé hier avec ton poulet frit à la coréenne. J'ai eu plein de retours.
Ouais, moi aussi j'ai reçu pas mal de messages. Ça me fait énormément plaisir. Quand je reçois des messages et que je reçois des photos des gens qui font les recettes, bah ça me fait plaisir. Et en plus on avait donné le mot d'ordre, c'était des recettes simples, rapides.
Il y a des gens qui font des belles décos.
Il y a des belles décos. On m'a mis de la cébette. Oui, on m'a mis de la cébette qui était frisottée, je pense qu'ils l'ont mis dans l'eau glacée. Donc ça, pas mal.
Ça fait comme des fleurs de cébette.
Non, très sympa, très sympa.
Ouais, vous êtes très créatif et n'hésitez pas effectivement à nous envoyer vos photos, les photos de vos plats et puis même quand vous revisitez les recettes du chef Enzem. D'ailleurs, Nabil fait ça de manière à ce que chacun puisse mettre sa petite touche personnelle.
Mais je veux.
C'est fait pour.
Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de beau, Manu, aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, je crois que tu nous emmènes en Turquie.
Ouais, la Madioun.
Les petits lamakoun, ouais. Mais avec le fameux petit boulgour à la tomate qu'on adore avec les grillades turques, les kebabs, etc.
Exactement.
Moi j'ai ma recette de boulgour à la tomate. Je vais voir si on le fait pareil.
Ah bah tu veux que je te dise, c'est toi qui la donnera.
Voilà. Non, si tu veux.
Avec grand plaisir. Je lance mon petit jingle.
Les recettes de la flemme du chef Enzem.
Bon, parfait. Parfait, parfait.
Alors ce lamakoun je
m'aventure plus à le prononcer. Je ne m'aventure plus à le prononcer parce que je le prononçais un peu à l'oriental.
Bah, lamakoun, c'est pas mal.
Lamakoun? Moi, je disais l'ahmadjoun.
L'ahmadjoun?
Ouais, mais je crois que je prononçais trop le H, donc je ne veux plus froisser nos amis.
Alors, écoute, c'est pas moi qui donnerai des cours de prononciation sur quelque langue que ce soit, puisque moi, je parle toutes les langues étrangères que je le parle avec un accent très parigot, donc.
Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, on va commencer par la fameuse recette.
Oui, le lamakoun, c'est, on rappelle, une pizza turque, c'est ça,
C'est ça, exactement. C'est une pizza turque qui est vendue très peu cher là-bas en Turquie. Qui est très très bonne.
Ça se vend, c'est de la street food, ça se vend dans la rue, partout.
Entre 50 centimes et 1 euro. Ouais. Sorti du feu de bois, c'est fait main, c'est juste exceptionnel. Et après, il y a diverses
façons. J'ai l'odeur du feu de bois, mais c'est cruel.
Il y a diverses façons de la penser, cette recette. Moi, je voudrais me fier à la recette que l'on m'a donnée en Turquie. Tout simplement, et c'est pour ça que je voulais absolument vous la partager. J'en avais parlé l'année dernière aussi pendant Ramadan, je sais pas si tu t'en rappelles.
C'est vrai, ouais, absolument.
Et c'est quelque chose que j'avais mis dans mon livre, tellement j'étais très fier de cette recette et que je voulais
partager. Vous pouvez acheter le livre du chef Enzem d'ailleurs, on n'en a pas parlé depuis le début du Ramadan.
Oui, il y a des petites recettes qui sont aussi issues de ce livre que j'ai mis pendant Ramadan, parce que c'est les recettes qui ont eu le plus de succès. Ouais, simplement.
Oui. C'est ton best-of un peu.
Exactement, c'est mon best-of de. Alors, c'est vraiment des recettes très simples, c'est pas un livre gastronomique.
Mais non, mais c'est pour ça qu'elle marche.
C'est
attends,
ça.
Y a pas de secret.
Exactement. Manu, tu sais ce que je te propose pour une fois? C'est toi qui vas donner la recette du boulgour.
Ah bah, je vais donner ma version. Tu me corriges si toi t'as les variantes.
Ta recette.
C'est toi le chef.
Vas-y.
Bah, moi, pour le boulgour à la tomate, celui qu'on. Alors, c'est vrai que c'est une recette que j'ai improvisée. Je me suis dit, je vais essayer de refaire celui qu'on trouve dans les bons restaurants turcs. Et donc j'ai cuisiné ce boulgour comme un risotto, en fait.
Ok.
C'est un boulgour-zotto, on peut dire. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on cisèle un oignon. Donc, on coupe un oignon à un tout petit cube. On peut le faire au mixeur, mais c'est quand même mieux de le faire au couteau, parce que si on le fait au mixeur, on va faire une espèce de pâte. On va faire une soupe presque. Donc c'est pas le but du jeu. Faut garder un petit peu de mâche. Okay. Donc un oignon ciselé qu'on va faire un petit peu nacré dans de l'huile d'olive et surtout pas trop cuit il faut pas que ça grille, c'est pas de l'oignon frit il faut que ça soit un peu translucide on le fait fondre en fait l'oignon pour évacuer un petit peu d'humidité et puis ensuite on rajoute le boulgour non cuit directement dedans. Alors vous pouvez faire ça aussi avec du blé, avec du riz, etc. etc. Mais c'est quand même sympa avec le boulgour. Donc vous rajoutez le boulgour sec hein, directement dans l'oignon et vous faites nacrer aussi le boulgour hein, comme pour un risotto. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute une à deux cuillères à soupe selon la concentration de votre concentré de tomate. Vous mettez une ou deux cuillères à soupe de concentré de tomate et vous mettez un petit peu de sucre pour casser l'acidité du concentré et vous mélangez bien de manière à ce que le concentré de tomate enrobe tout le blé et l'oignon hein, que vous avez, hein, que vous remuez comme ça en permanence. Quand on fait des risottos ou des pilafs comme ça, alors les pilafs, on les laisse tranquilles, mais les risottos, faut remuer un peu tout le temps un peu hein.
Okay.
Et une fois qu'on a fait ça, on va rajouter pour un volume de boulgour, on va rajouter 1,2 à 1,5 volume parce que selon les qualités de boulgour, ça boit pas forcément la même chose, donc vous le faites en deux fois. Vous mettez d'abord 1,2 volume d'eau et encore mieux de bouillon.
Ouais.
Un petit bouillon de légumes ou un bouillon de volaille. Vous mettez ça directement dans le boulgour et là vous baissez le feu.
Exactement,
et vous
c'est
couvrez
un peu...
et vous laissez à feu doux. Alors ce qui est encore mieux, c'est de découper un petit rond de papier cuisson, un papier sulfurisé.
Le cartouche.
Voilà. Et on le découpe et à la taille de la casserole ou de la poêle et on pose ça dessus. Ça va empêcher de dessécher le boulgour. Et après il faut compter 11-12 minutes à peu près.
Ouais. Moi je suis plus adepte, Manu, je te coupe, je suis adepte de ça, de ce que tu disais. Peu d'eau, plutôt que ça devienne gonflé et pâteux.
C'est pour ça que je dis 1,2 volume.
Exactement.
Hein, parce qu'en général, on donne 1,5.
Exactement. 1,2, mais l'astuce pour que ça soit pas croquant, pas al dente, mais quand même fondant, mais pas trop humide et pâteux, c'est de laisser le couvercle. Une fois que c'est éteint, on mélange, on laisse le couvercle et on continue dans ce qu'on appelle la chaleur résiduelle. Ça va cuire dans le reste d'humidité contenue à l'intérieur et ça va pas être trop riche en flotte. Moi, c'est comme ça que je le pense. Je vais partir sur ma
alors,
recette de la magie.
Juste un petit truc, c'est que moi, ma petite variante, c'est que moi, j'aime bien, à la fin, une fois que c'est cuit, je mets un tout petit peu de zatar dedans.
Très bien.
Et je le remue. Alors, si on n'a pas de zatar, on peut mettre un petit peu de thym, un peu d'origan.
Très, très bien.
Mais une petite herbe, ça donne un petit goût, un petit peu végétal en plus. Voilà, ça c'est vraiment ma variante, mais sinon voilà la recette de base hein, que je prépare moi pour ce boulgour à la turque un petit peu, c'est à la tomate, c'est comme ça que je le fais. J'espère que ça,
c'est très bien, c'est bon. Très très bien. Moi je me ferai même ta recette pour tester. Alors moi je pars sur les fameuses pizzas turques. Je vais pas les prononcer parce que moi je vais arabiser un petit peu la prononciation.
Je vais le prononcer à ma façon. La makoun.
La makoun. Allez, je te laisse le dire. Moi j'aspire le H.
C'est pas la makroun, hein, c'est la makoun.
Donc moi ça va être très simple. On croit que ça va être le plus compliqué de la recette, mais ça va être très simple finalement. Vous avez un robot à la maison, si vous n'en avez pas, vous faites à la main, mais si vous avez le robot, vous mettez tout simplement 500 g de farine dedans, T55 idéalement, T55. En général, pour les pains, on aime bien parler de T55. Et 310 ml d'eau tiède, donc 310 g, si vous préférez, d'eau tiède.
31 centilitres.
Ou 31 centilitres, comme vous le pensez. 10 g de sel, 20 g de sucre et une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Tout ça part au robot, on ne se prend même pas la tête. Et là, on laisse pétrir 5 à 10 minutes.
Il y a de la levure. Il n'y a pas de levure. Pas de levure, d'accord.
Voilà. 5 à 10 minutes. Non, pas de levure parce qu'on veut quelque chose de fin en général dans ce genre de pizza.
Ça croustille,
exactement. L'avantage, je ne l'ai pas dit, c'est qu'on peut faire ces pizzas en avance et on aura juste à les réchauffer pour le four.
On peut même congeler ces pâtes.
On peut même congeler, exactement. Donc si vous les avez cuites, la pâte, vous pouvez
on
la congeler.
Cru, hein, mais, pas cuit. Hein,
oui, bien sûr. Si vous avez cuit ces pizzas, vous pouvez les cuire en avance et juste les réchauffer. Vous savez, dans les restaurants turcs, hein, quand on les va, les lamagoun sont déjà prêts.
Oui, elles sont en vitrine.
Elles sont en vitrine, exactement. Donc vous pouvez faire la même. Ok, donc ça pétrit pendant 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait pendant 10 minutes? On reste pas bredouille, on se fait la farce.
Évidemment.
La farce, très 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 simple. 200 g de bœuf haché pour 200 g d'agneau haché. D'accord? Donc le boucher s'occupe de tout.
Ah, c'est comme la dana, c'est un temps pour temps d'agneau et de bœuf.
Exactement. Et moi ce que je rajoute, alors ça c'est ma petite particule à moi, hein, c'est de la poitrine fumée. J'aime bien ce côté fumé qu'on peut mettre à l'intérieur de la...
La poitrine fumée, attendez, mais c'est du halouf ça?
Non. Non, non, on s'est compris. Poitrine de veau, poitrine
voilà,
de ce que vous voulez. Un bacon halal, voilà, vous avez tout compris. Et ça va donner ce petit côté un peu boucané, ce petit côté fumé, parce que c'est vrai qu'on aime bien mélanger dans certaines recettes, notamment la bolognaise italienne, une farce de porc avec une farce de bœuf pour donner ce côté peu justement... voilà. Nous, bien évidemment, on ne consomme pas de cochon. Donc, vous, je sais pas Manu, mais moi, en tout cas, et je parle pour la plupart de nos auditeurs.
Moi, c'est pas le cas, mais.
En tout cas, pour ma part et pour forcément tous ceux qui font le ramadan, on n'en consomme pas. Donc, on met un mélange de 200 g de bœuf haché, 200 g d'agneau haché et 100 g de bacon, poitrine fumée, halal. Voilà, prenez ça dans quelque chose de qualité quand même. Hein, On évitera les marques sous cellophane et les choses comme ça. Mais si on le prend, il n'y a pas de souci. Je peux comprendre. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, tout ça est mixé dans un saladier. tout va être mélangé avec 3 tomates. Comme on n'est pas en pleine saison des tomates pendant ce Ramadan, bon, je dirais rien si des gens achetaient
des tomates,
de la tomate.
Tomates pelées en boîte, c'est mieux.
Mais mettez des tomates, voilà, exactement, des tomates cuites à maturité, récoltées à maturité, pelées en boîte, c'est encore mieux. Voilà.
Pourquoi? Parce que les gens souvent me posent des questions après en disant, mais Manu, tu dis toujours qu'il faut pas acheter des conserves, faut acheter des produits frais. Et pour la tomate, tu dis souvent, prenez en boîte. Pourquoi? Parce que le problème des tomates, c'est la saison. Il faut consommer des tomates uniquement en saison. Et pourquoi en boîte? C'est parce qu'elles sont récoltées pendant la saison des tomates.
Exactement.
Puis mise en boîte. Alors que si on achète des tomates hors saison, elles vont être farineuses, elles vont être acides, elles n'auront pas de goût et ça n'a aucun intérêt.
Par contre, ça a un impact désastreux sur l'écologie puisqu'on fait venir et on incite à faire venir des avions qui viennent de je sais pas d'où pour nous ramener cela. Donc empreinte carbone, écologie, puis on perd ce côté, le charme de la saisonnalité. Vous savez, moi, je suis content de manger une raclette quand c'est l'hiver, content de manger un butternut quand c'est l'hiver.
Évidemment.
Je préfère attendre un an pour manger les choses
à
la juste saison.
Les grandes salades en été.
Exactement.
Oui.
Voilà. Donc c'est la même chose pour les tomates. Donc désolé pour cette parenthèse un peu écolo, mais
c'est vrai. On est là pour ça aussi.
Donc on y retourne. Donc 3 tomates pelées parce que c'est pas la saison, mais en conserve. 1 poivron rouge. 1 poivron vert, pareil, c'est pas la saison des poivrons, on peut se les prendre en bocaux, mais ça on en trouve toute l'année. On peut pas dire aussi aux gens de faire pareil avec les poivrons, on va les perdre les auditeurs sinon.
Non, c'est pas grave
pour cette fois. Un oignon rouge, une gousse d'ail, et ensuite c'est parti. 2 cuillères à café de concentré de tomate, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de paprika. Vous avez vu, je vous simplifie les recettes pour pas que vous ayez parti dans...
On peut même mettre du paprika fumé si on veut renforcer le goût un peu de...
On peut mettre
bacon,
du paprika fumé, c'est très fort. Attention, le paprika fumé. Moi, j'ai une bonne qualité de paprika fumé. Voilà, on évitera certains. Mais si vous avez une bonne qualité, très bonne idée. 1 cuillère à café de cumin en poudre et 1 cuillère à café de coriandre en poudre. Donc, je récapitule. Dans notre farce poivron, viande hachée et tout ça, on rajoute 2 cuillères à café de concentré de tomate. Et là, c'est 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de cumin et 1 cuillère à café de coriandre. Le
facile.
Tout en poudre.
Ouais, coriandre en poudre, oui.
Facile. On mixe tous les éléments ensemble dans un blender et on mélange ça avec les viandes hachées. Attention, on n'a pas mixé les viandes hachées. Hein.
Ouais.
Les viandes hachées sont à part. Je vous parle de tous les éléments que j'ai donnés.
Oui,
les légumes et les épices.
On ne remixe pas les viandes hachées en
voilà,
plus.
Mais tout le reste, par contre, est mixé et on n'a plus qu'à mélanger ça avec
On étale ça sur la pâte.
Exactement. Déjà, on étale la pâte. Donc, on fait des pâtons étalés à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. On fait 1 mm d'épaisseur sur du papier cuisson et on étale la farce tout simplement. Et alors ensuite, c'est une dizaine de minutes au four, tout simplement.
Oui, ça cuit vite, mais un four bien chaud.
C'est ça, exactement.
Si vous avez un four qui monte à 300 degrés, n'hésitez pas à quoi.
Ensuite, finition, un peu de coriandre ou de persil, des rondelles d'oignon rouge, un peu de sumac, un peu de ce que vous voulez. C'est vraiment au goût de chacun. Voilà.
Bon, eh ben super recette. C'est une recette qu'on adore effectivement et qu'on retrouve
sur mon livre aussi. Hein.
Oui, qu'on retrouve sur le livre du chef Enzem que vous pouvez toujours acheter. En tous les cas, on se retrouve
demain.
Tout à l'heure après la pause.
Nous
on se retrouve la semaine prochaine.
Ah
on est vendredi.
C'est
Nabil.
Vrai. Oh là là.
Oui, on se retrouve lundi puisque samedi et dimanche à la même heure c'est le tour du monde. Et puis vous restez avec nous puisqu'on va retrouver notre invité du jour et nos influenceurs pour des adresses food du Ramadan. Allez, à tout de suite.
Chacun son tour revient dans un instant. 16h, 17h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour, l'émission la plus cruelle de la bande FM parce qu'elle vous donne faim bien avant l'heure de la rupture du jeûne pour ceux qui font le Ramadan. Et on a commencé avec cette recette du chef Enzem. On va enchaîner maintenant évidemment avec notre invité du jour qui sera Mehdi Bella, qui est cofondateur de Big M, une chaîne de fast-food qui est en train de d'exploser et qui s'est même installé sur Times Square à New York. On va en parler avec son cofondateur à l'instant. M'on rejoint également sur le plateau. Alors ils sont venus en force. Hein. C'est l'équipe de Catalogue Paris, hein, qui est un compte Instagram où il y a plein de bonnes choses à découvrir. Avec Alexis. Bonjour Alexis.
Bonsoir.
Virgile.
Bonjour.
Et Nour.
Bonjour.
Ils sont venus presque en famille d'ailleurs. Hein. On vous donnera
totalement,
pas les détails. ça reste perso, mais voilà. Et puis nous avons Saïf.
Salut Manu.
Alors Saïf, vous m'avez peut-être déjà vu avec lui hein, dans des vidéos pour Life ONG. Hein.
Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, on avait tourné ça. Hein.
Bah oui, comme tu m'as fait un chèque, je t'ai fait gagner le concours de cuisine.
Ouais, voilà, j'étais soudoyé et ça m'a facilité les choses.
Voilà, alors Saïf, que vous pouvez retrouver très souvent avec la brigade des fast-food, avec Florian, et puis sur son compte Instagram aussi. Bah, lui aussi, il est venu en famille, il est venu avec son épouse.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ben ça va. De toute façon, c'est ça, hein, Beurre FM pendant le Ramadan, c'est la famille.
C'est la famille. Exactement. Ouais.
C'est la famille. C'est la famille élargie. Alors on va commencer avec du burger. Du burger. On a avec nous en ligne Mehdi Bella qui est cofondateur de Big M. Bonjour Mehdi.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation.
Ben, merci à vous d'être là avec nous. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas déjà Big M, quelle est l'histoire de, alors déjà, quel est un petit peu le concept de Big M? On a compris que c'était du fast-food, burger. Hein. Mais qu'est-ce qui vous êtes associé avec Yanis et qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'aventure du fast-food et du burger?
Ben, écoutez, pour tous ceux qui ne connaissent pas Big M, aujourd'hui, on est un fast-food qui est né à Bondy. Donc en fait, l'idée, c'était de réunir tous les burgers préférés des Français au même endroit. Et en fait, à travers nos expériences, à travers nos voyages, on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas de food court à l'époque en France, ce qu'on pouvait appeler food court, ce qu'on voyait à la fois en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. Donc avec les petits moyens qu'on avait au début, c'est-à-dire à Bondy dans une boutique de 62 mètres carrés, on a décidé de lancer un concept où on pouvait retrouver tous les burgers préférés des Français, et en plus de ça.
Ouais. Alors quand vous parlez des burgers préférés des Français, vous n'avez peut-être pas le droit de le dire pour des raisons légales, mais moi je peux. C'est que effectivement, quand on est une bande de copains, il y en a un qui préfère le Whopper, un autre le Big Mac et un troisième le Giant. On va dire qu'on va trouver l'équivalent. Hein, on va pas dire une copie ni etc. Mais on va trouver l'équivalent chez vous, mais tout au même endroit.
C'est exactement ça. Voilà. En fait, c'est vraiment le concept du food court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un food court classique, quand vous rentrez, peut-être que vous allez vouloir manger thaïlandais, moi je vais vouloir manger burger, une autre personne va vouloir manger pizza. Chacun fait la queue, récupère son plat et mange tous ensemble au milieu. Donc nous, sur 62 mètres carrés, fallait trouver une solution pour offrir, entre guillemets, une expérience food court, et du coup, on s'est rabattu sur les burgers.
Ouais, alors, 62 mètres carrés, vous parlez effectivement du premier que vous avez ouvert, mais aujourd'hui, vous avez plusieurs dizaines de Big M en France, certains en propriété, d'autres en franchise, puisque vous êtes également, vous avez franchisé votre enseigne.
Exactement. Aujourd'hui, on a 59 boutiques en France, une boutique à l'étranger, la première boutique à l'étranger se trouve à Dakar, au Sénégal. On a 9 succursales pour 51 franchises.
D'accord, oui, donc 53 restaurants en France en tout, et puis d'autres projets à l'international, hein, apparemment. Toutes vos viandes sont halal. Est-ce que vous avez mis en place des choses un petit peu plus spécifiques pour la communauté musulmane pendant le Ramadan au niveau des horaires, des produits, de la communication?
Exactement. Bah, le Ramadan, surtout les heures d'été, c'était un peu compliqué les dernières années parce que vous savez, pendant le Ramadan, il y a une ambiance un peu spéciale. Les gens mangent plus à la maison. Ensuite, pas mal de fidèles se rendent à la mosquée et quand ils sortent, il était très tard. Aujourd'hui, on est sur une heure d'hiver où on peut à 21h, 21h30 pouvoir remanger. Donc, on a aménagé nos horaires de manière à travailler, juste un peu avant le coucher du soleil jusqu'à juste un peu avant le lever du soleil.
Ouais. Alors vous avez parlé de food court, vous mettez l'accent justement sur cette ambiance food court décontractée. Comment cet aspect ça contribue à l'expérience globale du client? C'est-à-dire quelle est l'ambiance pour les gens qui connaissent pas? Quelle est l'ambiance un petit peu dans un Big M? Parce que j'imagine que si vous êtes entre guillemets une chaîne avec des franchisés et puis certaines adresses en propre, c'est que vous avez un cahier des charges, c'est-à-dire que l'ambiance, les codes couleurs, etc. Bon, tout doit être évidemment formaté pour que les gens puissent trouver le même produit et la même qualité d'un Big M à l'autre. Donc, comment vous avez formaté un petit peu de tout ça au niveau du groupe?
Aujourd'hui, nous, si vous voulez, on a ouvert en 2019. 2020, il y a eu le Covid. On a dû s'adapter. On a vu que la tendance de la consommation des Français avait vachement changé. Et ils étaient plus adeptes aujourd'hui à de la livraison ou bien à de l'emporter. Et en fait, aujourd'hui, le food court, il vient à vous. Comme vous avez dit, si vous avez un ami qui préfère un steak, il préfère un burger plutôt Whopper, et quelqu'un d'autre qui préfère un Big Mac, entre guillemets. Il y a une soirée foot, vous allez tous commander au Big M et vous allez tous vous retrouver autour de votre burger préféré devant le match.
Ouais, en plus vous avez de l'humour parce que chez McDonald's on trouve un burger qui s'appelle le 280, mais chez Big M c'est le 290.
Exactement, il est plus lourd.
Ça, voilà, c'est un petit clin d'œil. Alors, et en plus vous allez marcher sur les plates-bandes des géants du burger jusque sur Times Square. J'ai reçu ça ce matin, votre attaché de presse me l'a envoyé ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait sur Times Square?
Exactement, en fait l'idée c'était, vous savez, en ce moment il y a la possibilité de faire de la pub sur Times Square, sur des écrans géants, sur les billboards, et on avait lancé notre offre 5 €, donc 2 burgers, une frite, une boisson pour 5 €, et on s'est dit grosse promo, grosse affiche, donc grosse publicité, donc on s'est dit on va aller à Times Square, on fait l'annonce sur Times Square, et ça va résonner un peu plus.
Mais ça cache pas l'ouverture d'un Big M à New York quand même.
Non, du tout.
Bon. C'était le clin d'œil, quoi. C'était le clin d'œil.
C'est ça, exactement, oui.
Ok. Alors, le marché du burger, ça évolue sans arrêt. Hein. Il y a eu la période du burger gourmet, puis la période du. Là, on est en plein dans le smash burger. Comment vous adaptez en termes d'offres, en termes d'innovation par rapport à ces modes? Est-ce que vous restez droit, sur vos rails en essayant de fédérer un petit peu parce que j'ai vu que vous aviez même des bao burgers aussi. Hein, donc d'essayer de fédérer un petit peu les grands standards du marché du burger, ou est-ce que vous allez peut-être, pourquoi pas, un jour lancer un smash burger?
En fait, si vous voulez, à la base l'idée c'était vraiment de réunir tous les burgers préférés des Français, et après on a, comme vous avez dit, on a essayé de développer avec toute la gamme préférée de la street food française. C'est pour ça qu'on a lancé, comme vous avez dit, le Bao Burger il y a cela un an et demi. Aujourd'hui, on est sur des wraps chicken tandoori et chicken curry. La particularité de ces wraps, c'est qu'ils ont une consonance indienne, mais la recette est un peu revisitée à la française parce que vous avez des produits français tels crème liquide, etc. Donc, un produit qui a plus de 30 ans, qui est né en Île-de-France et qui n'est pas vraiment démocratisé hors Île-de-France. Donc aujourd'hui, voilà, nous on reprend vraiment des basiques. L'idée, c'est vraiment de proposer la meilleure qualité aux clients. Et c'est pour ça qu'on a une R&D, qu'on pousse vachement certains produits, on fait des tests.
Et, alors R&D, recherche et développement, hein, pour les auditeurs qui n'ont pas fait HEC.
On n'a pas fait HEC également, je vous rassure.
Bon. Oui, mais alors justement, puisqu'on parle d'HEC, la franchise, c'est un aspect central, hein, de votre expansion aujourd'hui. Si un de nos auditeurs dit, bah moi j'ouvrirais bien un Big M, comment ça se passe, comment vous castez vos franchisés, est-ce que ça coûte cher, est-ce que j'ai besoin d'avoir une fortune personnelle?
Bah, en fait aujourd'hui, il y a cela 2-3 semaines, on a dépassé les 1000 demandes de franchise en 3 ans.
Ah oui.
Donc en fait, si vous voulez, ça passe, bah, le mode opératoire est simple, on va sur le site internet bigmburger.fr. Et là, on a des informations sur la franchise. Big M, ce qu'il faut savoir, pourquoi on a eu autant de succès, c'est une franchise qui, comme son nom l'indique, est franche. Donc, on ne surfacture aucun de nos franchisés, que ce soit aussi bien sur les matières premières que sur les machines lors de l'ouverture d'un restaurant.
Et, oui, vous avez juste vos royalties, comme on dit, sur l'exploitation de la marque.
Exactement.
Ok. Alors, Mehdi, une dernière question que j'ai envie de vous poser avant de vous laisser retourner à vos nombreuses occupations, hein, puisque quand on est à la tête d'un groupe comme ça, c'est j'imagine beaucoup de boulot. Chez Big M, vous, c'est lequel votre burger préféré? Le top du top.
Le top du top aujourd'hui, le long bacon pour moi. C'est vrai
long
qu'il
bacon.
Est tout développé, je trouve. Long bacon, et je suis particulièrement fan des deux nouveautés, le chicken curry plus particulièrement pour moi.
Bon, bah, si vous voulez tester ça, vous allez voir la liste des Big M sur bigm-burger.fr. Hein, il y en a plus de 50 en France, donc vous allez en trouver un pas loin de chez vous. Et puis l'Instagram bigm-du-8 officiel. Merci Mehdi.
Merci à vous.
Et bonne continuation dans votre entreprise à l'américaine, on va dire.
Merci.
Très bien. Alors, on va s'éloigner un petit peu des États-Unis, puisque on va parler d'une adresse qu'on aime beaucoup, hein, qui est un petit peu entre la Syrie et le Liban. Donc, c'est Nour et Alexis de Catalogue Paris qui vont nous en parler. Bonjour Nour, bonjour Alexis. Enfin, re, puisqu'on s'est déjà dit bonjour.
Bonjour,
hein.
Oui.
Donc, Cook & Sage, hein, qui est dans le 6e arrondissement, si ma mémoire est bonne.
Tout à fait. On a parlé de famille et de burger, donc ça c'est pas mal parce que ça, ce restaurant reprend ces deux aspects-là. Donc c'est effectivement une histoire familiale aussi, puisqu'il a été créé par deux frères, donc syriens et libanais. Et on y retrouve justement de la street food aux saveurs de ces pays. Donc, notamment...
Voilà, la street food, mais quali quand même. Hein. Ouais, c'est très quali. Les viandes sont halal bio.
Tout à fait.
Il y a les ingrédients sont. Enfin, moi j'ai le souvenir de chez Cook & Satch d'avoir mangé des choses avec vraiment des ingrédients de qualité.
C'est très bon, c'est très qualitatif. Donc on peut y retrouver effectivement des burgers, mais également des Satch. Donc c'est effectivement des sandwichs libanais.
Oui, le Satch, c'est cette espèce de four bombé sur lesquels on cuit les galettes, etc.
Tout à fait. Voilà, c'est un pain qui est fin et qui est très bon et qui accompagne finalement de nombreux plats. Et d'ailleurs, la maman de ces deux hommes cuisine effectivement aussi les plats du jour.
Oui, c'est ses recettes, hein, je me souviens de ça, effectivement.
Tout à fait. Donc, tout est halal aussi là-bas, tout est franchement très bon. Et aujourd'hui, bon, ça ne suffit pas. Un resto, il en faut plus. Le service, la qualité, le confort, l'ambiance, tout y est, franchement. Tout le monde s'y sent très, très bien. Donc, moi je recommande, faut pas hésiter à y aller.
Bon, Alexis, tu valides aussi, parce qu'apparemment tu connais bien aussi Cook & Satch.
Je valide énormément. Bah, la première fois que j'ai été, c'était avec mon cousin. C'est mon cousin qui m'a fait découvrir le restaurant. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment senti en famille. Donc, au-delà du fait que mon cousin connaisse les propriétaires du restaurant, mais c'est vraiment une ambiance familiale dans le sens où dès l'entrée jusqu'au service, on se sent vraiment partie de la famille. On retrouve vraiment des saveurs orientales qu'on retrouve pas partout, et c'est vraiment un avantage qu'on peut retrouver par rapport à d'autres restaurants de ce type.
Oui, et puis un conseil, hein, parce que pour connaître la maison, c'est des produits frais, cuisinés maison du jour, donc n'y allez pas trop tard, surtout si c'est pour faire la rupture du jeûne, parce que vous risquez de vous ramasser, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus.
C'est ça, c'est très demandé, très demandé. Donc,
Il ne suffit pas d'ouvrir un congélateur pour qu'il y en ait encore chez Cook & Satch, donc ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, alors allez vérifier peut-être sur leur site Cook & Satch Paris, ou sur l'Instagram Cook & Satch, s'il n'y a pas des horaires spéciaux pour le Ramadan, ça je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais en général d'habitude c'est fermé le lundi et ouvert tous les autres jours.
Il y a deux services, un service du midi et un service du soir.
Voilà. Exact, il y a une coupure entre 15h45 Exactement. Et 19h Exactement. En général. Parfait, merci beaucoup. Je vais y arriver. Alexis, je me mélange avec tes prénoms. Merci beaucoup, Alexis, pour cette confirmation. C'est 5 rue Bernard Palissy, dans le 6e arrondissement. Cook & Satch, on vous recommande. En tous les cas, moi je valide aussi. Merci pour cette belle adresse. Allez, on va faire une petite pause et puis après on va encore voyager puisqu'on va partir en Tunisie avec Saïf sur les plages de Sidi Bou Saïd. Ouais, à tout de suite, restez avec nous.
Chacun son retour revient dans un instant. 16h, 17h, chacun son retour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans chacun son tour, on a voyagé déjà en deuxième partie d'émission aux États-Unis avec le burger et puis après la Syrie, le Liban avec Cook & Satch. Et donc nous allons maintenant passer. J'ai oublié quelqu'un avant Saïf. C'est pas grave, je lance Saïf quand même. Je fais ce que je veux.
Je peux entendre aussi, ça ne me dérange pas.
Je fais ce que je veux. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, mais attends. On a annoncé qu'on allait voyager en Tunisie sans quitter Paris. Enfin, du moins, l'approche banlieue. Puisqu'on va à la Courneuve, à Sidi Bou Saïd. C'est aussi le nom du restaurant, en plus. Ça tombe
Exactement.
Bien.
Les Tunisiens, on aime bien faire au plus simple en termes de nom. On donne le nom de la ville et voilà, c'est
vrai.
Ça le fait.
C'est Carthage, c'est souvent ça. Voilà, c'est le nom du restaurant.
Bah, c'est un peu comme les Turcs aussi. Ils ont toujours les noms de villes. Et donc, Sidi Bou Saïd, Manu. Si t'es amateur de plats épicés, t'es amateur de fruits de mer surtout.
Arrête, j'ai vu les photos, tu m'as donné envie.
Oh, c'est magnifique, franchement c'est excellent. Alors c'est un restaurant tunisien qui est spécialisé dans les fruits de mer. Ils ont un énorme stand de fruits de mer où tu peux justement
fruits
aller
de mer,
choisir
poisson,
ce que tu veux.
Qu'on a l'air super poisson, frais.
Ah ouais, ils ont des arrivages tous les jours quotidiens. Et franchement c'est vraiment une tuerie, tu choisis le poisson que tu veux. Tu choisis la cuisson que tu veux.
Oui, c'est au poids.
C'est au poids.
C'est ça qui est bien.
Voilà,
c'est comme au marché en fait.
Exactement.
Sauf que c'est pas toi qui cuisine. Ça sent pas le poisson à la maison.
Voilà.
C'est le rêve.
T'as tous les avantages sans les inconvénients justement de la prépa. Et aussi, bien sûr, vu que ça reste en tunisien, ils font aussi des plats tunisiens qui sont vraiment goûtus.
Ah ouais, j'ai vu une photo de couscous au poulpe. Ah non, c'est un de mes plats préférés, le couscous au poulpe.
Les fameuses pâtes tunisiennes aussi. soit aux fruits de mer, à la viande, bio poulet, c'est ils font vraiment. En fait, ils cuisinent. C'est un des rares restaurants tunisiens où vraiment quand tu manges quelque chose, t'as l'impression d'être à la maison.
Ouais,
en fait,
c'est ça.
T'as l'impression que c'est une maman qui l'a préparé.
Moi, je voudrais faire une précision aux auditeurs qui nous écoutent parce qu'ils ont pas l'image évidemment, c'est la radio. Ouais. Mais quand ils commencent à parler de cuisine tunisienne, Saïf, il a les yeux qui s'allument.
Ah oui.
C'est exactement.
C'est mon petit côté chauvin.
Il y a une émotion.
C'est des émotions de. Ah non, c'est la cuisine tunisienne vraiment c'est. Et je suis content parce qu'il y a de plus en plus de restaurants tunisiens couvrent en France, dans la région parisienne.
Alors, c'est vrai que moi je pourrais faire un reproche, tu vois, parce qu'il y a une vraie cuisine marocaine, il y a une vraie cuisine tunisienne, il y a une vraie cuisine algérienne. Et c'est vrai que souvent, quand quelqu'un, alors c'est moins vrai pour les Marocains qui font vraiment de la cuisine marocaine, qui sont un peu plus chauvins sur la cuisine. Mais je sais pas si c'est pour des raisons commerciales ou pour essayer de satisfaire tout le monde. Mais les gens des communautés maghrébines, quand ils ouvrent en France un restaurant, ils font un restaurant maghrébin, voire oriental. Tu vois,
ouais.
Et moi je trouve ça dommage parce que faire les vrais plats tunisiens, je trouve ça hyper important. Faire les vrais plats algériens et même pourquoi pas un truc kabyle. Bon, il y a Majouja qui est un restaurant qu'on aime bien d'ailleurs. On les retrouvera dimanche dans le tour du monde. Hein, Katia et Nora, on va les retrouver même tous les dimanches pendant le ramadan. On va parler tradition culinaire et culturelle du ramadan en Kabylie et aussi dans l'Algérie parce qu'on va faire des petits détours, mais c'est vrai que il y a la cuisine tunisienne notamment est tellement riche, la cuisine algérienne aussi, la cuisine kabyle. Je trouve ça dommage que quand des gens effectivement algériens ou tunisiens ou d'autres clairement. Pays fassent un truc édulcoré, aseptisé,
on a chacun
en se disant ça va plaire aux Parisiens. Non, mais faites la vraie cuisine, c'est ouais, ça qui plaît en fait.
Ce que les gens demandent en vrai, c'est on a chacun nos spécificités, on a vraiment chaque région a son plat, chaque région a son couscous même, j'ai envie de te dire. Donc au sein même du pays. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choix à faire. Et pour en revenir à Sidi Boussaïd, vraiment, ils font vraiment un travail exceptionnel. Et je crois qu'ils importent les épices et ce qui est harissa, c'est l'harissa, pas l'harissa en boîte. Hein.
Oui, oui.
L'harissa,
c'est qu'il y a une AOC maintenant sur l'harissa. Hein.
Ah oui, non, mais c'est, ça, ouais. c'est fallait que ça arrive. Ça,
il y a 8 harissa qu'on l'a AOC seulement.
Hein. Exactement. Ouais, c'est d'où
ah, il me semble,
que,
ouais.
Parce qu'il y a vraiment, en fait, pareil, l'harissa en Tunisie, il faut savoir que chaque région a une harissa et chacun met à ses ingrédients. À son type de piment différent, je savais même pas qu'il y avait plusieurs types de piments, moi, pour te dire la vérité. Et voilà, donc tout est importé de Tunisie, ça a du goût, c'est bon. Et franchement, à chaque fois que je vais là-bas, c'est vraiment un régal.
Bon, et je crois que, alors, t'es venu avec ton épouse Imane, hein, que je connais déjà, on s'est croisé, il y a quelques semaines de ça, bah, quand j'ai fait ta rencontre. Et donc, Imane aime bien aussi Sidi Boussaïd.
Alors, moi, tout ce qui concerne la Tunisie me fait rêver. Bon, après, c'est un petit peu parce que ça fait 5 ans que j'y suis pas allée et que voilà, j'aime la Tunisie profondément. Et c'est vrai que quand on y est allé, ben, j'avais l'impression d'être au bled. J'avais l'impression, tu sais, cette ambiance, cette
quand
chaleur.
Quand elle va à la Courneuve, elle fait son aliyah, tu sais.
Quand
à partir du moment où j'ai passé les portes de Sidi Boussaïd, je me suis vraiment sentie, que ça soit au niveau de la déco, que ça soit au niveau de tout, l'ambiance, les gens sont chaleureux, le personnel est accueillant, enfin, on a vraiment cette chaleur à la tunisienne, on va dire, bon, il y a chaleur maghrébine, chaleur africaine, mais j'ai plus de proximité, on va dire, avec la Tunisie. Et c'est vrai que déjà, outre bien sûr ce que disait Saïf, c'était le côté goûtu, les plats, on retrouve vraiment les saveurs. Je dirais pas comme nos mamans, je sais pas si tu vas me contredire.
Ah non, les mamans, ça c'est.
Mais on a goûté certains plats.
Les mamans,
c'est
forcément un peu meilleur.
Oui, c'est un peu meilleur. Mais ça s'éloigne pas trop non plus parce que vraiment, on s'est tellement bien fait que. Que voilà.
Mais détrompez-vous, maman, elle adore quand vous allez chez Sidi Boussaïd parce qu'elle en a marre de cuisiner pour
c'est
vous.
Exactement. Ça, tellement.
Ça fait des années qu'elle cuisine pour vous.
Ouais,
elle voudrait pouvoir se reposer, maman.
Eh ben, maman, maintenant, aime aussi aller à Sidi Boussaïd.
C'est pas vrai. Les mères tunisiennes, enfin les mères méditerranéennes en général, hein. C'est pareil chez moi en Corse. Quand elles arrêtent de cuisiner, elles sont tristes.
C'est vrai. Ouais. Passent leur vie dans la cuisine, c'est un plaisir pour elles.
Alors moi, je me posais une question parce que bon, vous m'arrêterez si je me trompe, hein, Saïf et Imane, mais faut pas y aller en fin de mois quand on a déjà cramé le budget parce que tout fait tellement envie, comme c'est au poids. T'as envie de tout prendre. Et j'imagine qu'à la fin, quand l'addition arrive, tu fais un petit virement de ton code de vie avant de payer.
Bah franchement, en vrai, c'est bon. Clairement, si tu prends 5 kilos de fruits de mer, tu prends 5 kilos de langouste.
Forcément, ouais, ça va te la petite langouste qui arrive dans la vidéo. Bon, me passe bien.
Bon, forcément, si tu prends que ça, ça va chiffrer un peu. Mais sinon, les prix restent assez.
Ils sont accessibles.
Ils sont accessibles, assez corrects.
Moi, je vois bien ce restaurant où tu fais une grande table avec des potes, comme ça tu peux commander plein de trucs et tout le monde picore, quoi.
Bah c'est ce qu'on a fait.
Comme au bled, quoi. Comme au bled, on fait une grande table et on.
C'est exactement ça.
On est parti il y a quoi, peut-être 6 mois de ça. On est parti en famille. On était peut-être une trentaine, une quarantaine. Et on avait des espèces de bateaux. Ils travaillaient
dans ça. T'as privatisé le restaurant.
J'ai
quoi.
Privatisé une salle, c'était presque ça. Ils travaillaient des espèces de grands bateaux géants.
J'aime bien parce que quand ça y est, on y va en famille. Tu sais, tu te dis, ouais, 6-7 personnes. Non, famille, c'est 30.
C'est vraiment toute la famille. Non,
franchement, c'était cool. Et quand t'es rassemblé comme ça, toute la famille, tu manges bien, tu picores dans les assiettes des autres. Et voilà.
Et même l'endroit fait que tu t'y sens bien, en fait. Donc,
ouais. Franchement, okay. C'est un très très bon restaurant.
Bon, bah en tous les cas, je cherche l'adresse parce qu'on a plusieurs, mais apparemment c'est pas les mêmes patrons.
C'est pas les mêmes patrons.
Mais ils ont le même logo. Alors ça, on est en train d'investiguer avec Saïf pour comprendre.
C'est ça. Donc c'est vraiment le Sidi Bou Saïd de La Courneuve.
Voilà, 169 avenue Paul Vaillant Couturier.
Exactement.
Et vous avez un Sidi Bou Saïd La-8 Courneuve.
C'est ça.
Et vous trouvez Sidi Bou Saïd là-bas. Alors moi qui sors assez peu de Paris, je sors même rarement du Marais, tu vois.
Ouais.
je pense que je vais quand même aller à la Courneuve. Un petit coup de scooter.
Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Ouais. Et j'en suis sûr que tu vas beaucoup aimer. J'ai aucun doute là-dessus.
Même si tu n'aimes pas le poisson, imaginons que tu aies une envie de viande, et ben sache qu'à Sidi Bou Saïd, tu peux manger aussi de la viande. Ils ont une farandole de viande. Ah. Excellente aussi.
Bon. Ouais, on sent la viandarde qui parle un peu.
Ouais, c'est la viande.
Bon, bah apparemment Sidi Bou Saïd, c'est le rêve. Ça tombe bien parce que la transition est parfaite pour donner la parole maintenant à Virgile qui va nous parler de Rêve de Gosse.
Exactement. Donc Rêve de Gosse, c'est un petit restaurant de bar à tapas, on pourrait dire, qui fait beaucoup de cuisine du monde. Donc c'est vraiment de la fusion. Il n'y a pas vraiment de.
Ouais, très world food comme adresse.
Exactement. C'est pas halal, mais on y retrouve énormément de.
Ouais, c'est halal friendly. Il y a assez de poissons, de fruits de mer et de.
Il y a énormément d'entrées qui peuvent satisfaire tout le monde. Il y a du poisson, donc c'est pas vraiment un restaurant où on n'y retrouvera pas son compte. Donc tout est fait maison. Le patron est super investi, il est super passionné, il échange beaucoup avec.
Alors fait maison, je le dis souvent, c'est bien que ce soit fait maison, mais j'ai envie de dire. Quelque part, on devrait même pas avoir à le préciser parce qu'en fait, si t'as un restaurant, tu fais les trucs maison, quoi. Oui. C'est vrai, hein.
Non,
je me suis fait la remarque l'autre jour, j'étais en train d'écrire un article pour un magazine et je dis cuisine exclusivement faite maison. Je fais, mais c'est normal, quoi. T'ouvres un restaurant, si c'est pas fait maison, à ce moment-là, autant manger chez toi, hein. Si c'est,
oui, mais c'est quand même important de le dire.
Non, mais bien sûr, mais parce que tous ne le font pas, mais t'as raison, mais c'est parce que je m'étais fait la réflexion l'autre jour, ça devrait être obligatoire presque au restaurant du fait maison. Hein.
Exactement.
Excuse-moi de t'avoir.
Non, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, il fait tout maison de l'entrée au dessert. Il propose pas beaucoup de plats, mais tous sont très très bien faits. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent manger, surtout que c'est super cool de manger des tapas parce qu'on peut prendre un peu de tout, c'est pas trop cher. Le rapport qualité-prix, il est.
Ouais, c'est pas très cher. J'ai vu par exemple des frites parfumées à la truffe.
Exactement.
Et au parmesan.
À moins de 10 euros.
Bon, la truffe, ça coûte un bras. Bon, là, c'est à 8 euros.
Exactement.
Un truc que j'adore, le chou-fleur rôti. Alors ça, quand c'est fait, ça vient un petit peu du Moyen-Orient, des pays levantins. Le chou-fleur rôti dans la braise, là, aïe, aïe, aïe.
Non, c'est vraiment excellent. Donc on peut vraiment prendre 4-5 plats pour deux, plutôt des tapas, et puis être calé.
Ouais, alors c'est vrai qu'on voyage pas mal, hein, les couteaux sautés au chorizo, le chou-fleur rôti, les poireaux rôtis à la stracciatella au pesto, la feta rôti au miel, on fait tout le bassin méditerranéen.
Exactement.
Déjà là, et puis même le Japon, hein, tataki de bœuf, voilà, ça c'est des exemples de tapas. Il y a aussi des plats assez sympas. Donc les viandes pas halal, mais effectivement quand on regarde le menu que j'ai sous les yeux, il y a suffisamment de choix en vegan et en poisson, fruits de mer,
deux, trois plats.
Pour satisfaire tout le monde.
Exactement.
Ok. Est-ce qu'on va avoir le temps? Il est 16h53, on est en direct. Est-ce que tu peux nous parler de l'Hyperly en deux minutes, Virgile, ou tu préfères en parler dans une émission ultérieure?
Je peux en parler en deux minutes.
Allez, go!
C'est parti. Donc, l'Hyperly, c'est un coffee shop vraiment de qualité. Moi qui pensais aimer le café et connaître le café, c'est pas le cas. Parce que quand on va chez l'Hyperly, vraiment, ils ont différentes qualités de café. Vous ne connaissez pas. Donc, ça part du 84. À partir du 84.
Comme dirait Franck Ribéry, c'est le café avec un grand K.
Exactement, vraiment. Donc je ne savais pas que le café avait un score de 100. Donc ils ont du café à partir de 84,
ouais.
86 et 88 plus. Donc là, c'est vraiment.
Alors ça correspond à quoi? C'est à la force du café
Non, c'est la qualité du café.
La qualité, d'accord.
Vraiment, c'est, on parle pure qualité.
C'est pas la force comme les piments qu'on nous a fait bouffer avec Saïf, là, chez Life.
Moi, je pensais que c'était pareil. Je pensais que c'était une question de force.
Non, ouais. c'est vraiment au niveau de la qualité du grain de café. Donc, ils reçoivent le café, le torréfait eux-mêmes. Ils reçoivent des échantillons.
Et ça change tout.
Exactement. Et vraiment, ils sont hyper passionnés. Ils vous expliquent énormément de choses qu'on ne comprend pas.
Et donc, c'est plutôt une maison de café où on va boire des cafés un peu nature, soit filtre, soit expresso.
Exactement.
Ou est-ce que c'est plutôt un coffee shop style barista où on va avoir des
lattés? Ils ont tous les procédés de café.
D'accord.
Peu importe le procédé de café, ils l'ont. Tous les cafés, ils les ont. Et ceux qui n'aiment pas le café, il y a quand même quelques autres boissons que vous pourrez déguster.
Ok. Bon, ben, en tous les cas, ça, on a bien fait finalement en parler aujourd'hui et de pas attendre une prochaine émission. Donc, l'Hyperly, c'est 33 rue de Douai, Paris 9e. Donc, tiens, je fais un petit coucou à Sarah de chez Torquia, hein, le bar à fricassé. Hein. Là, tu dis, il faut que tu y ailles, hein, Saïf.
Ouais, je vais aller tester.
On va y aller ensemble.
Tu me l'as bien vendu, on ira ensemble.
Ouais, on ira ensemble. Depuis le temps qu'elle me harcèle pour que je vienne. Enfin, elle me harcèle. C'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps, mais elle me harcèle pas. Je lui ai promis de venir et je suis pas venu. J'ai honte. Allez, 33 rue de Douai, Paris 9e, et c'est l'hyperly.coffee sur Instagram. Merci à toute la team. Je vous remercie pas individuellement parce qu'on a plus le temps. Faudil me fait des grands signes.
Merci.
Et vous allez retrouver Philippe Robichon et ses invités pour Ramadan & Co. Et puis nous, demain, ce sera Tour du Monde. On partira au Liban avec Karim Haïdar. Ciao, ciao, bye bye.
Bye.
Retrouvez chacun son tour tous les jours de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.